Je dis, papa, mais je t'ai amené. Alors, je lui dis, tu as reçu des soins, il lui demande un neurologue, il dit non. J'ai été 13 fois de suite à l'hôpital, dans les soins. Le neurologue lui dit non. Il m'attend.
Hein?
Il va se coucher avec le mal à la mâchoire. Tu sais, il mâche, il a mal à la mâchoire. Il va se coucher. Le lendemain, il se lève, prend le petit déjeuner. Et puis, il fait. Il a mal comme ça. J'ai dit, ça va, tu avais mal hier? Non.
Oui.
Et il a souffert, il était se coucher avec le mal comme ça, le truc, et le matin il se lève, il dit, on se rappelle.
Au moins, il ne se rappelle pas d'avoir eu mal.
Oui, il peut pas, non.
Non, c'est caché. C'est caché, Méode.
C'est caché, mais quand tu lui dis justement à propos de caché, Méode, quand tu lui dis, est-ce que ça a été caché?
Je ne sais pas si ça te fait un plaisir.
Ça mon père. Jusqu'à il y a un mois,
il y avait le gâteau
avec les capsules, tu sais, les bouchons marron, blanc, bleu et jaune. Le matin, l'après-midi, ça c'est pour maman. Le matin, l'après-midi, ça c'est pour moi. Toute la semaine. Ma mère n'a jamais rien fait. C'est pas le médicament qu'il mange. Il me rend. Quel médicament me prend? C'est lui qui me rend. Comment? Il veut pas me laisser me parler. Quand je m'approche, je dis chut, laisse-moi, laisse-moi. Il ne se voit pas plus.
C'est Herbert Refoua Chalema, Herbert quoi?
Shimon Ben Rahmona.
On fait le shiur, les Refoua Chalema de Shimon Ben Rahmona. Shem Ishlachlo Refoua Chalema. Les amis, on revient dans notre étude de Sefer Orot Israël ou Triato du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Et nous sommes arrivés au chapitre 24. Page même Aleph.
Même.
Aleph. Même Aleph. Yes?
Yes.
Ça commence justement par Yes. Ok?
Je crois que, là, il n'a pas trouvé encore.
Pécha, il n'a pas trouvé.
Non.
Alors,
page même Aleph.
Même, voilà, même.
Et donc l'autre côté. L'autre page. Non, non,
voilà, j'ai trouvé.
C'est bon?
Non.
Non.
Comment ça,
non?
Ah
oui.
Oh.
Même, voilà, même.
Bah, donc la page à côté.
Tu es là, tu es à côté.
Non, après, voilà, même à l'aise.
Ben voilà. C'est bon. On est bon. Alors allons-y. Yesh Ruach Memuzag Shemitarev Yafé. Rav Kook va nous dire, voilà, il y a une force, on appelle ici un rouar, mais on va voir de quoi il s'agit. C'est pas, là le sens n'est pas avant. Il y a une réalité, une force, Memuzag. Memuzag, ça veut dire quoi? Alors aujourd'hui, Memuzag, on dit, c'est tempéré, il y a la clim.
Mais non.
Voilà, équilibré, exactement. Ok, équilibré. Chez Mitarev, il y a fait, qui s'embrique très bien, Ima Olam ve'achayim, avec le monde et la vie. Im Sidre Amaasim ve'anagot Amidot, qui s'arrange très bien aussi avec les actions et les midot, les qualités intérieures. Einenu Nikar Kolkar Bepeulato Leatzmo, on ne voit pas véritablement dans. Si on le prend séparément du reste, on ne voit pas tellement quel bienfait il va procurer. Aval, hu megale et kocho anna'e va mesudar bechol et sheyagia adavar l'idée talmud ve l'idée maase. Mais il dévoile toute sa megale et kocho anna'e, il montre toute sa force bien disposée, jolie, comme il faut, lorsque on arrive à l'étude et à l'action. Donc, de quoi on parle? Cette définition de cette chose qui s'imbrique bien dans le monde, qui est bien, c'est tranquille, c'est bien. Eh bien, c'est Ruach à Allah. Allah. Voilà. La Allah, c'est cool. C'est bien, ça se met bien dans le monde. Ça va ensemble avec mes actions et mes midotes.
Ça donne sa structure.
L'autre, ça s'est structuré.
Il a besoin de boulot.
Voilà, mais et c'est calme. C'est calme, c'est pas shoot, c'est mes soudas. Finalement, la halakha, c'est pas compliqué.
C'est calme, il y a un truc qui veut pas le faire.
Non, ça c'est autre chose. D'accord, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du libre-arbitre de chacun que tu as envie de respecter parce que tu as accepté Akadosh Baruch Hu comme étant le patron ou pas. Mais la halakha, son rôle, c'est de te faire la vie facile. En fait, si tu suis la halakha, ta vie, elle est très simple. Pour tout, tu as des règles bien déterminées.
Bon. Moi, j'ai oublié ce qu'on
dit. Il y a pas beaucoup de juifs dans le monde qui se sont enfermés dans les arbres de la halakha.
Nouvelle. Ils ont une vie facile.
Ouais.
Voilà. Ils ne se sont pas posés de questions. Halakha, tranquille. Tac, 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 tac. Zemé Soudar, Zé Yafé.
Aujourd'hui, c'est très difficile.
De quoi ? De faire la halakha ?
Dans un pays comme en Israël, on parle de l'électricité, de la production. Ou bien le truc, le Talmud, le Chofim, le Varinka, le.
Attends, je
tout est divisé.
Non, je ne comprends pas. Tu me dis, c'est problématique, la halakha aujourd'hui en Israël, par exemple, parce que la production d'électricité Shabbat.
Voilà.
Ok ? Nous, la halakha, elle a déjà répondu à ça. Le grand rabbinat d'Israël, il permet la production d'électricité Shabbat ?
Aujourd'hui, ils ne veulent pas.
Comment ça, ils ne veulent pas ?
Non,
Et ils ne veulent pas que les Juifs aujourd'hui travaillent.
Mais c'est normal qu'on ne veuille pas qu'on travaille Shabbat.
Mais alors, il y a d'autres parties du pays qui voudraient le contraire.
Mais non, mais là, tu parles d'autre chose. Là, tu parles des gens, est-ce qu'ils veulent respecter ou pas le Shabbat ? Ce n'est pas de ça que je te parle. Moi, je te dis la halakha. La halakha, je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Ce n'est pas les gens qui déterminent la halakha. C'est les rabbins. Ok, la halakha, ce n'est pas démocratique.
On ira pour que c'est les rabbins qui vont déterminer tout ici.
Mais j'ai pas.
Comme en Israël. Attends,
tu mélanges deux choses.
Regarde,
je ne te parle pas des lois du pays. Je te parle uniquement de qu'est-ce qui est halakha et qu'est-ce qui n'est pas halakha.
C'est théorique, je suis d'accord.
Non, c'est pas théorique.
Ah, si tu veux mettre en pratique, il y a une partie du pays qui refuse.
Mais il n'y a pas de problème, ils n'ont pas obligé de faire. Chacun, il fait ce qu'il veut.
Il refuse que ça veut dire la production d'électricité. Il ne peut pas faire autrement.
Mais à ça, on a déjà répondu, cette problématique-là. La production d'électricité pendant le Shabbat, elle est automatique. Maintenant, il y a des gens qui sont là pour contrôler cette automatisation, pour si jamais il y a un problème, alors on doit pousser un levier, on doit trouver un machin. Maintenant, pourquoi est-ce que le grand rabbinat, il permet ? Parce que c'est permis. La preuve, c'est que moi, je connais plein de rabbins. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Rav Yehuda Ben Ishai. Il est le patron de cette synagogue. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais ils ont allumé la lumière aujourd'hui.
Ouais.
Comment c'est possible ? C'est-à-dire que le Rav, il accepte d'utiliser Chevrat HaChashmal alors qu'il sait qu'elle produit de l'électricité Shabbat. Pourquoi ? Ben parce que c'est à l'automatique. Maintenant, tu me dis, non, mais il y a quand même des gens qui font des fois des péoulotes pendant Shabbat. Oui, et ces péoulotes qu'ils font pendant Shabbat... Comment est-ce que la halakha, elle s'arrange avec ça ? Puis quoi, Arnefesh ? Parce que si il y a un blackout total de Khashmal le Shabbat, les hôpitaux, ils ne marchent plus, les gens, ils vont mourir, les machines, machin, hein ? Donc,
comme le médecin qui est de garde.
Exactement. Donc, on permet... C'est-à-dire que c'est automatisé, mais s'il y a besoin d'intervention humaine, c'est Pikou Arnefesh. Donc la halakha, elle s'est arrangée avec ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu es en train de me dire autre chose. Tu me dis non.
Attends. Tu prends des villes entières, que ce soit Nebrat.
Non. Et quoi, ils n'ont pas d'électricité Shabbat ?
Il faut fabriquer l'électricité, fabriquer le Shabbat autrement.
Ils savent quoi autrement ?
Ils ne sont pas branchés sur le... Pas le DF, je veux dire le DF, le Kevin Khashman. Ils ne sont pas branchés le Shabbat.
Ah ouais, ils ont
des générateurs, c'est la même chose.
Mais ils n'ont pas de générateur, mais vous allez rigoler ou quoi ? Vous croyez que chaque maison à Bnei Brak, elle a un générateur ?
Elle a des cas, parce que je connais ça, elle a ma fille, elle avec là-bas.
Oui.
Le Shabbat, il passe sur. Il faut s'abonner, c'est des générateurs qui
l'ont. Eh bien, tu sais ce qui se passe ? Ça, c'est exactement ce que le Rav Kook, il dit pas. C'est-à-dire que lui, il parle de Ruach Memuzak chez Ruach chez la halakha. Ce que toi, tu me dis, c'est pas la halakha. Ce que toi, tu me dis, c'est Khumra. C'est, j'ai pas envie d'accepter la Kula du grand rabbinat d'Israël parce que j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'en faire plus. Donc, je me mets sur des... Il y a des grands générateurs et il faut s'abonner aux générateurs.
Mais ça revient au même.
Non, ça revient pas au même. Parce que si c'est un générateur, il n'y a rien qui se passe. Si le générateur, il ne tombe pas, tant pis, il n'y aura pas d'électricité. Ok, mais encore une fois, ça, c'est une khumra. C'est pas la halakha.
Je suis d'accord.
Ah, donc le Rav Kook, il parle pas de la khumra. Parce que les gens qui sont mahmirim toute la journée,
ouais,
ils sont pas memouzagim. Ils sont pas tempérés. Ils sont... Il n'y a pas toujours tout qui marche bien. Parce qu'à vouloir tout le temps être mahmir sur Kol Davar,
on peut pas avancer.
Non seulement on peut pas avancer, mais des fois on transgresse la halakha. D'autres halakhot. Eh oui, c'est un vrai problème.
Non, mais
donc là, on te parle pas de ça. Là, on te parle de la halakha. Et la halakha, c'est pas shoot. Alors, c'est pas pashut d'être le posek halakha, ça il faut étudier énormément. Mais toi et moi, on a envie de suivre la halakha, c'est mode pashut. T'es pas obligé pour savoir comment on fait Shabbat d'avoir étudié tous les poskim sur Shabbat. Non, t'as été au cours du Rav Benisha, il t'a expliqué comment on fait Shabbat, et puis c'est tout. C'est pashut. Maintenant, le rôle du Rav, c'est d'être capable d'expliquer ça à sa communauté de manière simple. Et c'est capable d'être capable aussi d'expliquer à quelqu'un qui serait érudit quel a été le cheminement pour arriver à la halakha qu'il a donnée à la synagogue.
La réponse, elle dépend de la personne à qui on s'adresse.
Évidemment.
C'est sûr.
Maintenant, la psika à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mode pashut. D'accord ? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'électricité Shabbat ou pas ? La réponse que le rabbin il va donner à la synagogue, c'est oui ou non. Après, s'il veut écrire un livre de halakha, alors il fera tout le cheminement pour expliquer pourquoi oui ou pourquoi non. D'accord ? Mais ce que je veux te dire, c'est que toi et moi qui sommes là et qui suivons l'enseignement du Rav, c'est calme. Ouais. Et donc, nous dit le Rav Kook, « Ruach ha-halakha, c'est mitarev yafé, machaim. »
C'est une introduction, ça. Parce qu'il y a autre chose après.
Bah, évidemment. mais déjà ça, c'est vrai.
En plus, ça s'adresse à qui ? Aux
hommes ? À tout le monde. Parce qu'on va, les femmes, elles sont dispensées de la halakha.
Discussion que j'ai avec mon épouse. Et alors, c'est quoi ? Alors, je dis, la réponse est simple. Alors que mon raisonnement, il est dans. J'ai une approche pour les. Que tout le monde ici, on a une approche progressiste. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir pourquoi on est arrivé à cette halakha. Et donc, moi, dans, mon,
okay.
dans ma réponse à ma femme, est un petit peu gênée par le fait que je suis dans une approche progressive. Elle veut la réponse...
D'abord, tu sais comment ça se passe aujourd'hui,
oui.
La théorie du genre. Aujourd'hui, on fait virer des profs à Sciences Po parce qu'ils ont dit hommes et femmes. Hein, c'est un problème. Maintenant, je ne serais pas aussi catégorique. Il y a des femmes, peut-être des femmes, qui ont envie aussi d'une explication très complète de pourquoi on fait tout ça. Et il y a peut-être des hommes aussi qui se satisfont de simplement la réponse du rabbin et ils ne vont pas aller chercher plus loin. Je dis simplement que c'est pas le débat. Le débat de tout le déroulement de la compréhension halakhique, c'est très important pour celui qui veut étudier. Mais c'est pas ça au final qui va me faire faire ou pas la halakha. C'est-à-dire, la halakha, c'est mode pashut. J'ai un petit livre qui s'appelle Kitsur Shulchan Aruch, c'est mode katsar. Et voilà, ça moutard, ça assour, ça moutard, ça combien, ça truc. Il est mode kal. Yala. Hanouka, ça arrive. Mais je dois allumer les bougies de Hanouka. Nous, mais pas shoot. Le rabbin il t'a dit, eh ben voilà, tu allumes le premier jour une bougie, et il faut que cette bougie elle dure une demi-heure, et il faut qu'elle soit placée devant ta porte en face de la mezouza, et un minimum 90 cm de haut. Voilà, de haut. Cal. Lama. Pourquoi Asarat Fahim ? Qu'est-ce que ça veut dire une metziout en dessous de Asarat Fahim ? Et pourquoi il faut que j'allume une bougie ? Et qu'est-ce que c'est Mehadrin, Mina Mehadrin, et Betilel, et Betchamay ? Je peux faire le cheminement. C'est très bien, il faut. Mais au final, moi, j'ai envie de savoir ce qu'il faut faire. Ben, ça ne va pas chercher midi à 14h. Bon, 14h. Okay. Donc, le Ruach HaLacha, nous dit le Rav Kook, c'est mode calme. C'est mitarev yafé ima chaim. Vima ma'asim. Mais, quel est le problème du Ruach de la Halakha ? C'est que tu ne vois pas véritablement l'influence que ça a dans le monde. J'ai fait Shabbat. J'ai vu l'influence que ça a eu dans le monde. Non, j'ai pas vu. J'ai même pas vu. J'ai allumé ma bougie de Hanouka.
Oui.
Une bougie de Hanouka. Ben, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Devant ma maison, j'ai aussi L'ampoule. Il y a beaucoup de maisons qui ont une lampe dehors. Ça allume la nuit. Alors, j'ai allumé ma bougie. Ça a vraiment fait de la lumière? Ça a vraiment fait plus de lumière que mon ampoule que j'allume tous les soirs? Est-ce que je vois l'influence que ça va avoir dans les mondes supérieurs, dans la réalité du monde, dans ma connexion au peuple juif? Non. C'est d'accord, je vois pas. Je fais plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je le vois? Non, je le vois pas. D'accord? Donc le roi Khalakha, d'un côté, il est calme et ode. Mais d'un autre côté, on ne voit pas son influence dans le monde. Ok ? C'est clair ? Et je parle bien, pour revenir rebondir à ce que tu as dit, on parle de la halakha et non pas de la khumra. La khumra, c'est l'homme et mouzag.
Petite question.
Oui.
Pour le chalouka. La chalouka doit être à 80, minimum 90 cm du sol. C'est tout ce que je veux savoir, c'est ça ? D'accord.
La halakha, c'est minimum 3
tfachim
et maximum.
Et... Le problème, c'est que quand tu mets à 3 tfachim, dans les faits, d'accord, je te parle très concret. Dans les faits.
Tu parles de la
halakha. Oui, mais justement, la halakha, elle doit aussi. Oui, mais quand tu dis à quelqu'un comment il doit allumer, tu dois aussi prendre en compte qui a posé la question. Si je lui dis de mettre la chanoukia à 20 cm du sol, il va se faire un lumbago. Il va se faire un lumbago. D'autre part, tu as peut-être des petits enfants qui vont venir chez toi, ils vont shooter dedans, sans faire exprès. Donc, bien sûr qu'au niveau de la halakha, tu peux à partir de 3 tfachim, mais c'est pas quelque chose qu'il faut enseigner.
C'est à partir.
Oui, mais le mec il va te dire, ah moi je le fais à partir.
Mais non.
Il faut pas enseigner ça. Ça sert à rien de dire aux gens tu peux mettre à partir de 3 tfachim.
C'est pas bien de toute petite.
Non, c'est pas une question de confiance.
Mais si.
Non, c'est pas une question de confiance. Dis-leur.
Par exemple, en l'occurrence, on sait que c'est minimum comme ça. Pareil pour la souka. La souka.
Oui, oui, bien sûr. Quand les gens ils enseignent les ilchot souka.
Personne ne va le faire.
Il y a fait. Est-ce que quand quelqu'un il te demande stam dans la rue, arabe, ma souka, elle doit faire combien?
Elle doit faire combien, c'est autre chose. Mais quelle est la halakha, quelle est le minimum?
Elle doit faire combien? Minimum ça, maximum ça. C'est ça, elle doit faire combien? Bah ouais. Mais sauf que moi, je ne vais pas lui dire de là à de là. Je vais lui dire pour que tu puisses rentrer dedans. Maintenant, si on vient... Mais exactement. Si c'est un schtroumpf qui vient me demander, alors je lui dirai comme tu dois rentrer dedans. Et pour lui, ça sera tout à fait autre chose que pour moi. Et je m'en fiche. Moi, si je suis invité dans sa souka, je pourrais me fier à la vie, à la rigue, parce que quelqu'un va me dire, attends, je suis invité dans une souka d'un schtroumpf.
Mais tu ne pourras pas rentrer.
Mais si, je pourrais rentrer.
Non, parce qu'elle est en dessous de l'île de Tfachim.
Non, elle est pas. Non, elle est le schtroumpf, ça va. C'est tout petit, un schtroumpf. Bon, on est en marque-loquette sur combien c'est un schtroumpf. Moi, je pensais que tu disais schtroumpf pour ne pas dire autre chose.
Un
maman schtroumpf. Bon, ok, so, si c'est un schtroumpf, on pourra discuter. Mais tu comprends qu'en fait, la réponse, elle va être donnée en fonction de la personne qui t'a posé la question. C'est toujours comme ça. Tu fais pas un débat à la rique, tout un déroulé.
C'est pas un débat, mais donner la halakha et de dire, oui. Voilà.
Bah là, la halakha, c'est que tu puisses rentrer dedans.
Mais que la personne, elle sache la halakha.
La personne, tu veux qu'elle sache maintenant tout le déroulé, ça non, c'est en cours de halakha.
Je suis d'accord avec Yoel. Je suis d'accord avec Yoel. Si tu parles de halakha, il faut savoir que la halakha, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab. Une fois que tu sais la halakha.
Vous avez jamais posé une question de halakha à un rabbin alors? Honnêtement,
non, parce qu'on parle sur le côté pratique, c'est vrai.
Quand tu as posé la question au Rav Benishai, X questions, l'homme chané, ouais, il t'a dit un truc qui a fait 3h30 de réponse,
non.
Où il t'a dit ça c'est moutard, ça c'est assaut, faut faire comme ci, faut faire comme ça.
C'est tout à l'heure, ça dépend à qui je m'adresse.
Et il y a fait, si tu es en cours de halakha, si tu fais un cours de halakha pendant une heure, on veut étudier en profondeur Ilchot Souka, alors tu vas étudier depuis la Gemara, et tu vas prendre les Shonim, et tu vas prendre la halakha, bien sûr. Mais ça, c'est en chiour de halakha. Si la personne est en face de toi, tu es à deux jours, tu es à la veille de Soukot, tu dis comment elle fait la Souka, tu vas pas commencer à lui faire tout le déroulé. Alors, si on est en face de toi, la personne qui pose la question, tu le connais, tu sais que c'est une nudnik, tu sais que c'est un dos, et qu'il a besoin de. Tu lui répondras comme ça. Et c'est pour ça que je ne sais pas combien de fois il faut le dire, mais la halakha, on la prend. On ne la prend pas du bouquin, mais on la prend du rabbin, qui te connaît, qui sait quelle est la question que tu poses vraiment, et quelle réponse t'attends. Ça colle. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, donc, encore une fois, c'est me hôte pas shoot. Il y a une grande différence entre... et je sais que je viens de crier contre les livres, mais venez, on prend un exemple dans les livres. Il y a une énorme différence entre le Shulchan Aruch et le Beit Yosef. Les deux bouquins sont écrits par le même monsieur, par Rabbi Yosef Karo. Quelle est la différence entre le Shulchan Aruch et le Beit Yosef ? Oui. C'est pareil, hein ? Mais non. Rabotai. Je sais que vous savez. C'est pas du tout une question d'Ashkenaz ou pas. Shulchan Aruch, c'est ça. Beit Yosef, c'est ça. C'est le même bouquin. Seulement, le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo qui a repris son propre Beit Yosef et qui n'a mis que la conclusion. Il a mis la conclusion. Le Beit Yosef, t'as tout le débat à l'Arik.
C'est ça qu'on appelle le Kitzur.
Non. Le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Ganzfried, ou alors Kitzur Shulchan Aruch HaShalem ou du Rav Chaim David Alevi, c'est le Shulchan Aruch, c'était encore trop long. Parce que Rabbi Yosef Karo, il n'arrivait pas à être vraiment concis. Alors il y a des gens qui sont venus après, ils ont fait encore Kitzur du Shulchan Aruch, qui était déjà un Kitzur. Et aujourd'hui, le Rav Ben Ishai qui fait son cours de Halakha, c'est un Kitzur du Kitzur Shulchan Aruch. Parce que les gens, ils... Et tu veux que je te dise, on veut des raccourcis, ouais, et c'est malheureux. Mais d'un autre côté, toi, tu es le rabbin pour le peuple juif. Tu n'es pas le rabbin pour uniquement les Talmidei Chachamim. Et je vais te dire un truc que j'ai entendu du Rav Cherki, c'est quelque chose que j'ai entendu de plein de gens, et c'est très très vrai, j'avais jamais pensé. Il dit, c'est quoi la différence entre le Rav Ovadia Yosef et ses enfants? Il y a une différence fondamentale entre le Rav Ovadia Yosef et ses enfants.
Les enfants, ils sont nés en Israël et lui...
Oui, non mais au-delà de ça, au niveau de la halakha. Le Rav Ovadia, c'était un des plus grands posek halakha de l'histoire, et ses enfants, c'est tous des posek halakha. Et pourtant, tu vois que tous les enfants du Rav Ovadia, que ce soit le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Avraham Yosef, le Rav David Yosef, ils sont tous ultra machmirim. Alors que le Rav Ovadia était parmi les plus grands mekel de l'histoire. Ok ? Donc quelle est la différence ? Comment c'est possible que l'un est arrivé à ça et les autres sont arrivés à ça ? Eh bien, le Rav Cherki m'avait dit, les enfants du Rav Ovadia, ils ont été toute leur vie au collège. Ils n'ont jamais été en contact avec le peuple juif. Je parle au niveau Tachles. Ils ont étudié dans les Sfarim jusqu'à l'âge de 50 ans, jusqu'à ce qu'ils deviennent. C'est pas la question de travailler, c'est pas le débat là. Non, on peut pas tout le temps. Là, je parle uniquement au niveau de la conception de la halakha. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toute leur vie étudié la Torah jusqu'à ce qu'ils deviennent des Dayanim et ils soient Rav de la ville. Bah, c'est des enfants du Rav Ovadia, donc forcément. Mais ils n'ont jamais été en contact avec la communauté, avec les gens.
C'est une critique vachement importante.
Mais bien sûr, le Rav Ovadia Yosef, à 20 ans, il était Rav d'une communauté. À 30 ans, il était Dayan au Caire. Donc ça veut dire qu'il n'était pas moins érudit, mais il a toujours été extrêmement en contact avec les réalités du quotidien du peuple. Et donc quand il décide la halakha, il sait que ce n'est pas seulement de la théorie. Donc c'est très différent. Tu peux être mahmir quand tu as une communauté de tzadikim. Ça, c'est facile. Mais quand tu es le rabbin d'une communauté de plein de gens, tu peux pas être marmire.
C'est bien.
C'est vrai ? Donc, c'est exactement de cela dont on parle. Les amis.
Rav Cherki, c'est un Algérien, il est très bien.
Hein ?
Rav Cherki, c'est un Algérien, il est très bien.
Donc, c'est bon. Non, mais il y en a des biens aussi, des Marocains hein, et des Tunisiens. Il y en a même des biens ashkénazes.
Il y a même des biens tunisiens aussi.
Aussi. Bekitsour, donc, Arouach Amemouzag Shela Alacha, Ze Khashouv Meod, Ze Kal Meod.
Il y a quand même une différence.
Oui.
Sur un sujet bien précis, on demande au rab ce renseignement-là.
Oui.
Maintenant, étudier.
Ah oui, c'est très différent.
C'est autre chose.
Mais bien sûr. Mais c'est pas de ça qu'on parle. L'étude, c'est l'étude. La halakha, c'est la halakha. Tu arrives au final à une psycha. C'est pas shoot.
Ok. On a besoin de. On n'a pas bien compris.
Ah, mais très bien. Mais demande au rabbin qui t'explique. Ça, c'est son boulot. Il n'y a pas de problème. Mais au final, moi, ce que je vais faire, c'est pas shoot. Ok ? Donc, Zéo Ruach HaAlacha, Ruach Torah Shebealbe, Amesaderet et Akodesh Beorach Achaim. Le rôle de la halakha, c'est mode pas shoot. Ça fait rentrer le Kodesh dans tous les domaines de la vie. C'est ça ? Kshe Ruach Zé Metukan. Ou meshuchlal kol tzorko. C'est-à-dire quand ce ruach, il est metoukan, ça veut dire tu ne vas pas chercher dans les chumrot. Ou alors meshuchlal kol tzorko. Certes, tu as vraiment étudié comme il faut. Parce qu'il ne s'agirait pas de venir dire j'ai étudié 2 ans à la yeshiva, ça y est, je suis posé kalacha. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, avant de pouvoir livstock, tu dois manger beaucoup de soupe. D'accord ? Donc, c'est évident que d'un côté, il faut faire attention à Khumra Yetera, mais d'un autre côté, il n'y a pas de laxisme non plus qui est possible. C'est-à-dire, Areu Naasa Kise Vebasis Elion Shela Agada Eliona. Lorsque cette halakha, elle est comme il faut, alors elle devient la base du trône de la Haggadah Eliona, c'est-à-dire de la Kabbalah, des enseignements beaucoup plus profonds. Puisqu'on a dit, le problème de la halakha, c'est qu'elle ne montre pas les influences que ça a dans le monde. Mais sache que si la halakha, elle est faite comme il faut, alors elle est la base du dévoilement des secrets de la Torah, de toute la Haggadot. Ben, c'est ça, les secrets de la Torah, c'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire, le moyen de le faire, c'est la halakha. Mais la compréhension de ce que tu es en train de faire, c'est assez pour. Je donne toujours le même exemple, mais c'est un exemple qui est facile à comprendre. Il faut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde en commençant par la bonté, parce qu'il est cool au bon, et qu'après, il y a mis du din, de la rigueur. Donc comme je veux dévoiler d'abord la bonté et ensuite la rigueur, alors je sais que la bonté c'est la droite et que la rigueur c'est la gauche, et que donc je vais commencer à mettre ma chaussure droite et ensuite ma chaussure gauche. Mais au niveau de la halakha, j'ai juste lu, tu mets d'abord la droite et ensuite la gauche. Si je mets la gauche et la droite après, alors qu'est-ce qui se passe ? Aruach halakha olom etukan. Donc il ne dévoile pas le fait que en fait la droite c'est chesed et la gauche c'est din, et que donc en fait tu commences par din. Donc vous comprenez que la halakha, quand elle est bien mise en place, elle permet de dévoiler les secrets de la Torah qui sont en fait le dévoilement de la Torah.
Il
ne
faut pas que commencer, il faut terminer. On commence par la droite et on finit par la droite.
Ah mais si tu n'as pas de lacet.
On commence par la droite et on finit par la droite.
Tu as quelque chose à ranger, alors tu finis d'arranger.
Tu vas en claquette, tu es en vacances, ouais, tu es en maillot de bain pour aller à la piscine.
Ouais.
Et donc, les seules chaussures que tu vas mettre, c'est tes claquettes.
Ouais.
Alors ?
Des tongs.
Des tongs.
Le pied droit.
Bien fait. Mais comment tu finis par le pied droit ? Tu te recoiffes les poils ?
Je ne mets pas beaucoup de tongs.
Non, mais bon, ça. Nakhon, tu as raison. Quand on a des lacets, on va d'abord lacer la gauche, ensuite on va finir par la droite. Nakhon, mais bon, si tu n'as pas, tu n'as pas. Ça va. Bekitsour, La Haggadah Eliona ameshotetet begovem eromim vetofeset et amavayim anitzrihim. Ok, bon, ça on a compris. Voilà ce qui se passe quand on a une halakha qui est metuken. Aval. Yesh omnam ruach sar. Donc on avait parlé d'un ruach memuzag, la halakha, c'est-à-dire c'est tempéré, c'est bien, c'est équilibré. Et là on a un autre ruach qui est sar. C'est une tempête. Ok, on a une autre force qui est tempétueuse. Chez Einom mitkasher imaruach hamemuzag, qui marche pas avec la halakha. Poretsu gedarim, il détruit les murailles. Veinom echakel sidur olami shevusas, et il n'attend pas qu'il prenne sa place dans un seder olam. הנה, מרחק לסור עולם שמוסס, לסדרי החיים והתיאוריים, ותיאוריהם, סליחה, שהתאחדו במזג הקודש והטוב. ארסי קווסה. ומגבוה ידעה עד עמקי תחתית בלא סידור. אוקיי, אין פורס, טמפטיוז, כי נפה דוטו אורגניזם. Qui ne répond pas du tout à ce qu'on a dit tout à l'heure, memuzag, halakha, tac, 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 tac. C'est quoi ce roi-là ? לא יוכל להתערב עם חיי בני האדם המסודרים. Les gens qui sont ordonnés, halakhisés, machin, ils n'arrivent pas à gérer ce roi-là. C'est pas possible. מוכרחו לקחת לו לעזר את החוצפה. Ce roi-là, il utilise comme aide de camp la chutzpa. A azout ve'od midot ra'ot ka'ele.
Le culot.
Le culot. Voilà. Azout metzar.
C'est quand Israël, on a Baorakfel.
Quoi?
De la chutzpa.
La chutzpa dans Israël.
Ah, il y a de la chutzpa en Israël. Ça, c'est une chutzpa. Il n'y en avait pas à Strasbourg, mais il y en a en Israël. C'est une chutzpa. Yes. Ah, mais on était plus, calme. Le tzor shah, cette force-là, ces forces tempétueuses, est-ce qu'elles n'ont jamais leur place? Ben non, elles ont des fois leur place. Je dis le Rav Kook, le tzor shah, pour un temps, l'et milchama, des fois, en temps de guerre, on a besoin de ces forces-là. Quelqu'un qui est calme toute sa vie, très posé, machin, quand il y a des grandes décisions à prendre en temps de guerre, il ne saura pas les prendre. On a besoin de... Des fois, on a besoin. Aval, il n'irtse li kaval seder achayim kvouim lo iratse. Mais si tu veux en faire quelque chose de kavua, l'otov. Prenons un petit exemple.
C'était tout à l'heure, mais ça ne marche pas.
Prenons un petit exemple. Il y a un monsieur, enfin deux monsieur, qui ont vu leur sœur se faire violer. Alors ils ont dit, ça ne va pas se passer comme ça. On va exploser tous les hommes de la ville. Un par un.
Hein? Ça me passe quelque chose, ça.
Des jeunes, monsieur.
Ça me rappelle quelque chose.
Voilà. Et donc, ils ont pris leurs épées. Ils ont réussi à faire un stratagème en faisant se mutiler tous les hommes de la ville. Et lorsqu'ils étaient au top de leur souffrance, ils sont venus et les ont tous tués. Ah ah! Pourquoi ne pas les mettre à la tête de l'État? Pourquoi ne pas les mettre, eux, pour guider le peuple juif? Nous dit Yaakov, Shimon ve'Levi achim, klei chamas mecheroteem, besodam al tavonafshi ubikealam al techat kevodi. Donc, achalkem be Yaakov ve'afitzem be'Israël. C'est-à-dire, je ne peux pas leur donner le pouvoir. Parce que des gens comme ça, qui utilisent ces kohot-là, ce n'est pas possible. Par contre, on a besoin de temps en temps. Donc, je vais les mettre un peu partout pour que ça distille la théâtre, pour que dès qu'on en a besoin, on en a besoin. Par exemple, ben, quelques milliers d'années plus tard, eh bien, on en a eu besoin. Et donc, ces mêmes descendants, quand ils ont vu cette jeune femme qui s'est dévêtue dans son mariage parce qu'elle voulait éveiller les consciences que ce n'est pas possible le droit de cuissage des Grecs depuis 3 ans, eh bien, ce sont ses frères, les Kohanim, qui ont dit, on prend les armes et on se bat contre les Grecs. C'est très bien, on est très content qu'ils aient fait Hanouka. Mais quel est le problème? On avait besoin de cette force-là, de cette force de Shimon et Lévi. Nahon, ils ont fait la guerre contre les Grecs et on a gagné. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après Hanouka, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé qu'ils ont voulu faire de cela quelque chose de kavua. Et ils n'ont pas rendu le pouvoir. Et donc, ça a amené à toutes les dépravations et les perversions de la fin du Second Temple, où la royauté hachmonaïte est devenue sadducéenne et elle a laissé sa place à Hérode. Pas génial, génial. Donc, on avait besoin des hachmonaïm. On avait besoin de cette force-là. S'ils n'avaient pas été là, on aurait continué à servir les Grecs et à dire merci beaucoup.
C'est qu'ils ont pris le pouvoir, c'est ça.
Ils ont fait la guerre, et ça c'est très bien. Mais après la guerre, ils ont gardé le pouvoir. Ah, ils ont voulu faire de leur réalité une réalité que vous voyez. Et ça c'est un problème. Ok? C'est clair? Top. Alors on continue. Perot mesudarim vekvuim liot reuim le mechiat dor dorim lo yiten.
Il faut quand même un pouvoir qui contrôle ça.
D'accord? C'est pour ça qu'il te dit, ces forces-là qu'on a besoin de temps en temps, elles ne pourront pas, sur le long terme, donner leurs fruits.
Ok, mais eux, qui c'est qui les a commandés? Ça a été une impulsion. À un moment donné, ils ont décidé de faire ça.
Oui.
Il n'y avait personne dessus pour leur dire il faut faire ou pas faire.
Non, c'est bien ce que je dis. Ils ont été poussés par ces forces-là.
Oui, mais quand ils ont fait, il n'y avait personne pour rouspéter.
Mais si, bien sûr qu'il y avait.
Alors eux-mêmes, ils ont continué.
Mais attends, mais bien sûr qu'il y avait. Il y avait d'un côté le Sanhédrin, qui n'était pas content du tout, et il y avait de l'autre côté le Resh Galuta, Rosh HaGola, qui était en Égypte.
Comment ça se fait qu'ils ont gardé le pouvoir?
Ah ben... tu connais pas les êtres humains?
C'est
il te dit, j'ai fait tout le boulot, c'est moi qui ai conquis la terre, c'est moi qui ai pris tout et qui ai viré les Grecs, maintenant, tu te réveilles maintenant?
Alors,
en plus, c'était des Kohanim.
C'est grâce à moi.
C'est pas tellement leur tafkid.
Mais bien sûr, c'est pas leur tafkid. Je te dis simplement, tu connais pas les êtres humains?
Oui, mais ça va, on peut connaître les êtres humains, mais il y a un pouvoir.
Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Je sais que toi, tu es un friand. Tu es un friand de football. Ah, voilà, je sais. Tu vois, maintenant, on discute. Il y a un truc qui s'appelle la Coupe du Monde de football. Il y avait un mec qui a tout fait. Il a tout réussi. Et il a conquis le monde du football avec plein de ballons en or. Et il a même amené son pays à une renommée incroyable. Il s'appelait Cristiano Ronaldo. Et puis là... Non, mais là maintenant. Et puis là maintenant, il a tout perdu. Parce que son époque est passée, c'est fini. Tu veux continuer. Tu veux pas rendre le pouvoir. Caché de rendre le pouvoir. Mais c'est dur, pourquoi il vieillit? Moi, à 37 ans, je vais pas faire une Coupe du Monde, hein, je peux t'assurer. Tu l'as vu celui-là?
À 37 ans, c'est un peu vieux. Mais ça te comprend, même sans expliquer.
Tu comprends? Donc c'est dur de rendre le pouvoir. J'ai tout fait.
Ce que j'ai vécu à 20 ans.
C'est caché. Tu sais, ça marche aussi chez les rabbanim, ça marche aussi chez les présidents de communauté. Des fois, les mecs, ils ont construit un truc énorme. Et pendant 20 ans, c'était eux la pierre angulaire de tout. Et puis, le public a changé.
Ouais.
Et ça colle plus avec le rabbin ou avec le président. C'est dur de laisser les autres prendre la relève.
Tu fais beaucoup d'allusions. Non, c'est rare. Hein? Mais qui c'est le gouverneur? Le rabbin d'Elstein, il y a 99 ans.
Et alors,
il dit.
Et alors, le rabbin d'Elstein, je peux t'assurer qu'il est incapable d'être rabbin de communauté.
Mais il est gouverneur?
C'est vrai, parce que. D'abord, je sais pas ce que ça veut dire gouverneur. Il est un grand sage du judaïsme actuel, et un très grand sage même. Et donc, à lui, on lui demande de prendre des décisions, des trucs halakhiques, mais sur des points, tu sais, très particuliers. Mais c'est pas lui qui donne cours dans la synagogue tous les Shabbats. Parce qu'il a plus la force pour faire ça. C'est normal. Donc, il y a un moment donné, Edma la saute.
On voit bien que les jeunes, maintenant, ils poussent, ils veulent.
Et il y a des plus vieux qui ont du mal à lâcher. Voilà, ça. Donc ici, on te dit, il y a des forces qu'on a besoin à un moment donné, mais elles ne peuvent pas rester qu'à voix. Si c'est qu'à voix, c'est dangereux. Ok ? Yid gader be'agada eliona be'chokhmot nistarot be'gionot elionim be'mechozot gedolim biflaim u'be'moftim be'tfila shel mesirut nefesh בסגולות של קישור נשמות ובפליאי פלאות של נהורים ושל מחשקים. אבל אותו היושר העליון, האור המתוק והמתוקן והמקובל, ממי השילוח ההולכים לאט. זה יחסר לו. C'est bien beau l'impétuosité de toutes ces forces-là qui vont très vite, mais ce qu'elles n'ont pas, c'est la distance. Elles ne sont pas capables de tenir la distance. Ce qu'on appelle Mea Shiloach Sheolchim Leat. L'eau, elle fait son petit bonhomme de chemin, Leat. Il y a une différence entre l'explosion de la cascade et la rivière qui continue, Leat, et qui abreuve le monde entier. C'est-à-dire, Be Israël, Yigale Rak Betsura Shel Saad Leet Ra'a, Livtsor Chayil Beet Zaam Leet Krav Umilchama. והיא באה לתיקונה השלם כשהיא מתחזקת ומשתרשת סליחה, ביהדות העתיקה תורת הפירושים. Qu'est-ce qu'il te dit le Rav Kook? Là, il termine les allusions, là, c'est clair. Il te dit, là, pour le peuple juif, c'est ces forces-là qui ont recommencé le sionisme, c'est ces forces impétueuses, c'est ces forces tumultueuses, ces forces tempétueuses qui ont pris les devants et qui ont dit « Allez, on fait un État, allez, on y va, on pousse les Anglais et on fait le Hetzel et le Lehi. » C'est pas les eaux calmes. Ben-Gurion, c'était pas un mec calme.
Non, mais tout le monde comprend que ça, c'est un temps.
Oh ah, il te dit, comment est-ce que ces forces-là vont être canalisées et calmées? A Yahadut à Attika. À Prouchit. En français, à Alaha. Il te dit, tu veux calmer tout ça, il faut cadrer. Comment? Avec la tradition juive de toutes ces générations. Zéakol. On a besoin de ces forces-là, mais on a besoin de les cadrer. C'est ça? Le chol gidula, aurka, omka, verochba, im kol amakea ve'ararea, im kol chela, azza ve'etokpa, shehi kolelet et hakol, et hamala ve'et hamata. Ken? Aliot ve'tartit kruchim ba. C'est la Torah depuis des générations, Torah ta'alacha, Torah ta'masoret Israël, eh bien, elle est capable de répondre à tous les problèmes. Elle est capable de donner une solution à toutes les questions. Donc, ben elle est là pour encadrer ces forces-là. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un ?
Oui.
Ça dépend. Ça dépend. S'il veut te tuer, tu as le droit de te défendre. Si ta tête, sa tête ne te revient pas, tu n'as pas le droit. Et si c'est une guerre, c'est mitzvah. Il faisait milchemet mitzvah, c'est mitzvah. D'accord ? Donc ça dépend. Et des fois, il y a un cas qui va faire que, ah ben là, il faut. Mais qu'est-ce qui va te donner le cadre ? Aya Adout, A Atika, Masoret Israël.
Mais dans notre histoire passée,
oui,
il y avait des rois. Et ces rois-là, chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, ils demandaient au Nabi.
D'accord.
Ce qui nous manque à nous, dans la génération qu'on est nous maintenant, il nous manque un sage qui dirige les gens qui sont au gouvernement, qui sont avec qui.
Mais on a plein de sages. On a plein de sages. Mais soit, il y a deux problèmes. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas de sages. Le problème, il est que, un, les gens du gouvernement, ils ne veulent pas forcément aller leur demander. Et deux, les sages qu'on a, ils ne veulent pas forcément répondre quand ce n'est pas des questions qui touchent à des questions religieuses. C'est un problème.
Pour le peuple et la direction qu'il prend dans le...
Évidemment qu'il faut. Évidemment qu'il faut. Abba Birshuta.
On a eu le même truc, le même tuyau avec le rabbin. Quelqu'un qui arrive au pouvoir. Il y a un rabbin qui a marqué dans une page entière attention à ça. Et quand il arrive au pouvoir, ce type-là, il n'est pas censé connaître tout ça.
Ah, c'est vrai.
Il a eu le pouvoir parce qu'il a eu le pouvoir.
Mais tout à fait.
Mais c'est une catastrophe.
Bien sûr.
C'est pour ça que pour le sage.
Mais c'est le Sanhedrin. Badaï, t'as besoin. C'est évident. Abba Birshuta Bekocha Otsmata, Slicha. Bekocha Otsmata, Ela Elion. Je dis n'importe quoi. Ela Eliot Elionot. Ela Pardesim Agenuzim. Are Hu Oler Bemigdal Oz Hashem Melo Bitra. Bechola Amon. Agadol. Animshach. Alpi Torat M. יוכל לבוא לאור חיים נאמנים, מסוגלים לתחייה שלמה, בלא פרץ ובלא יוצאת, ומפנימיות רוחו יחזה חזות הכל, ובשובה נחת יושע. זה כבר זאת היסטוריה לה, נדיל אורף קוף, וכל ההמון הגדול הנמשך על פי תורת אם. מה זה תורת אם? הוא תרמין אבקסס, לפן לפסקה. תורת אם. שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אומר רש"י, מוסר אביך זה תורה שבכתב, תורת אמך זה תורה שבעל פה. En d'autres termes, c'est la tradition juive dans toutes ces générations. Lorsque tu te réfères à cela, eh bien c'est ça qui va te cadrer quoi qu'il arrive. Les Hashmonaïm, quand est-ce qu'ils ont perdu leur légitimité? Lorsqu'ils ont abandonné Torat Imecha. Lorsqu'ils ont abandonné Torat M, en devenant Tzdukim, eh bien, ils ont perdu leur légitimité. Donc, de dire le Rav Kook, la halakha, c'est ce qui nous cadre dans la vie, c'est ce qui permet de dévoiler Bassis, la Agada et Yona, et ce qui permet également de cadrer ces forces qu'on aurait besoin de temps en temps. Chazak ou Baruch. La semaine prochaine, on étudie, hein, c'est Hanouka, mais on étudie quand même.
Oui. On a besoin de bouger.
Des beignets.